Alors on reprend pour la dernière série d'interventions avec deux interventions, François Hudon et Christian Lazéry. Donc François, bah, je suis très content de le retrouver parce qu'on s'est connu il y a bien longtemps à Montréal et on s'est croisé quelques fois depuis, mais pas assez souvent à mon goût, donc ça fait plaisir.
Ouais, et... le plaisir est mutuel.
D'accord. Donc je te laisse tout de suite la parole pour une intervention qui effectivement sonnait bien comme intervention de conclusion, par-delà positif et négatif, vers une conception hybride de la liberté, mais Christian nous permettra de rajouter une couche.
Voilà. Est-ce que tout le monde a Oui, tout le monde a une copie?
Moi j'ai oui.
Ok, ça marche.
Bon.
Bonjour à vous, merci d'être encore présent en si grand nombre. C'est relatif toujours dans ce genre d'événements, c'est quoi un grand nombre, mais pour la dernière,
avant-dernière,
dans les dernières, conférence d'un colloque qui est aussi stimulant et tout de même quand même un peu épuisant, pour, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'après deux jours comme ça, on a le cerveau qui fatigue un peu. Je souhaite remercier Marie et Delphine de m'avoir invité à participer et de m'avoir et aussi avoir reçu si bien les autres. C'est clair que c'est un incitatif fort à revenir. Donc j'imagine que c'est pas tout à fait un hasard qu'une conférence qui est intitulée « Par-delà positif et négatif » survienne au crépuscule d'un colloque portant sur la liberté négative et ses critiques. Mais bien que ma présentation soit quelque peu iconoclaste et controversée, n'espérez pas davantage de parallèles avec Nietzsche, car vous seriez déçus. En effet, toute ressemblance avec son œuvre ne saurait être que fortuite. Donc, j'entends présenter deux arguments qui correspondent aux deux parties du titre de ma conférence. Le premier cherche à montrer que la philosophie politique, que j'emploie de manière équivalente à théorie politique normative, devrait abandonner la distinction que Berlin fait entre un concept de liberté négative et un concept de liberté positive. Donc, l'alternative consiste à chercher plutôt la meilleure conception de la liberté sans ajouter de positif ou négatif. Ce qui nous intéresse, c'est une conception de la liberté. Quelle est la meilleure qu'on peut élaborer? Le second argument vise un peu à montrer la fertilité d'une approche qui serait libérée de la distinction de Berlin et à défendre l'idée selon laquelle une conception qui me semble avoir un bon potentiel pour la philosophie politique doit posséder au moins trois éléments. Un, une interprétation inclusive, large des contraintes sur la liberté spécifique. Deux, une interprétation inclusive ou large des phénomènes de la liberté spécifique. Et trois, un rôle pour les préférences individuelles dans la constitution de la liberté globale. Donc, sans surprise, ma présentation se divisera en deux parties, une pour chaque argument. Donc, pourquoi faut-il délaisser la distinction de Berlin? Comment une distinction qui est pourtant si populaire, comment elle pourrait être conçue comme un échec? Avant de répondre à ces questions, il y a quelques remarques préliminaires qui s'imposent. D'abord, je crois qu'il est important de rappeler brièvement la distinction entre concept et conception. Ça, c'est une distinction Rawlsienne. Et je ne veux pas m'attarder, je pense que les gens sont assez familiers avec la distinction, mais en gros, le concept identifie des caractéristiques communes d'un phénomène. Il cerne de manière plus ou moins abstraite les différentes composantes, les relations qui les unissent, la fonction qu'elles servent. Alors qu'une conception va ajouter de la chair à ce squelette en précisant l'identité des caractéristiques communes du concept. Donc, typiquement, un concept énumère des traits qui sont possédés par toutes les conceptions de ce concept, même si celles-ci diffèrent par ailleurs. Donc, dans la mesure où la distinction de Berlin concerne des concepts de liberté, il faut donc comprendre que Berlin considère qu'il y a deux phénomènes différents, la liberté négative et la liberté positive, et que le concept de liberté négative comprend des caractéristiques que toutes les conceptions de la liberté négative possèdent en commun, mais qui sont différentes de celles du concept de liberté positive et de ses diverses conceptions. Donc, afin d'évaluer la pertinence d'une distinction conceptuelle comme celle de Berlin, il faut savoir identifier, je pense, de manière au moins implicite, et moi, je veux le rendre explicite, qu'est-ce qui est un bon concept, une bonne conception, une bonne distinction conceptuelle. Hein? Ici, je ne veux pas dire que c'est la seule façon, mais c'est une façon de jouer carte sur table. Voici quelle sorte de critères je vais utiliser pour défendre ma thèse sur la distinction de Berlin. Donc moi, j'adopte une approche qui est instrumentale sur la fonction des définitions, qu'on trouve chez Popper, mais aussi chez Elster, selon laquelle une bonne définition permet de désigner, en tentant de respecter nos usages linguistiques, un phénomène d'une manière à constituer un bon outil, et c'est là l'aspect instrumental, pour expliquer les phénomènes qui méritent une explication. Donc, il y a deux critères généraux d'une bonne définition. Un critère linguistique, est-ce que la définition est en accord avec nos usages? Et un critère explicatif, est-ce qu'elle nous aide à expliquer les phénomènes qui nous intéressent? Donc, je pense qu'on peut appliquer ces critères-là aux concepts, aux conceptions et aussi aux distinctions conceptuelles, conceptionnelles. Donc, si on revient à la question de la liberté, on peut déjà dire que il faut qu'un concept ou une conception ou une distinction qui concerne la liberté se conforme suffisamment bien à nos intuitions concernant l'usage du champ lexical de la liberté, tout en nous permettant d'expliquer, entre guillemets, des phénomènes intéressants. Hein? Et qu'est-ce que ça peut signifier que d'expliquer des phénomènes intéressants en philosophie politique? Hein? Ce n'est pas vraiment des termes qu'on emploie d'habitude. Ici, je m'inspire de Carter en me limitant au domaine de la philosophie politique et à la résolution des problèmes de cette discipline, notamment celui de la justice sociale. Et pour préciser davantage, je stipule que la philosophie politique possède essentiellement trois tâches. Premièrement, soit l'évaluation de phénomènes ou situations qui sont politiques. Deux, la prescription d'actions d'institutions ou de politiques publiques. Et trois, l'explication de ces évaluations et prescriptions, on pourrait aussi dire justification, je pense, c'est-à-dire la formulation de théories et l'identification de principes qui permettent de rendre compte de ces évaluations et prescriptions en équilibre réfléchi élargi entre nos jugements bien considérés et les autres théories pertinentes. Donc, en somme, un bon concept, une bonne conception, une bonne distinction concernant la liberté, doit offrir une description d'un phénomène qui, en plus de correspondre assez bien avec à nos usages linguistiques, doit être utile à l'identification et l'explication des évaluations et prescriptions portant sur le domaine politique. Donc, plus concrètement, la liberté doit correspondre à un phénomène qui a de la valeur et qui figure donc dans nos théories politiques normatives, parce que sa présence ou son absence, son augmentation ou sa réduction peuvent avoir un effet sur les évaluations et les prescriptions politiques. Donc, ces remarques préliminaires me permettent de délimiter le domaine de l'entreprise. Si vous considérez que les définitions des concepts doivent identifier des essences, par exemple, ou que votre intérêt pour la liberté relève plutôt de la psychologie ou des sciences sociales, ou encore que vous considérez que la philosophie politique a des tâches autres que celles stipulées précédemment, alors il est tout à fait possible que la distinction de Berlin garde sa pertinence malgré ce que je m'apprête à en dire. Donc c'est ça que je délimite le domaine dans ce sens-là. Donc l'enjeu est de savoir si les concepts de liberté négative et de liberté positive rendent bien compte de nos intuitions linguistiques et s'ils nous aident à évaluer, prescrire et expliquer en philosophie politique. Je pense que je peux sauter le rappel sur les deux concepts de liberté. On en a parlé suffisamment dans les deux derniers jours. À la limite, s'il y a une confusion au cours de la présentation, après ça, vous posez une question, puis ça devrait être suffisant. Donc, je vais présumer que vous connaissez « Two Concepts of Liberty ». Je pense que c'est une supposition qui est assez raisonnable. Donc, je commence par présenter les critiques de cette distinction en m'inspirant de l'article de McCallum. Je ne sais pas à quel point les gens sont familiers avec cet article-là. Des fois, un article défend quelque chose, on en retient seulement une idée, puis on ne revient plus vraiment à l'article même, mais il y a beaucoup plus de choses dans cet article. Et donc, ce qu'on a retenu, c'est beaucoup la formulation comme relation triadique, mais la justification de cette formulation ou qu'est-ce qui est contenu dans l'article, des fois on l'oublie. Donc, McCallum, dès 1967, souligne deux problèmes de cette distinction entre liberté positive et négative, mais il le fait de façon générale. Hein. Il faut bien se rappeler, chez McCallum, ce n'est pas une critique qui est bizarrement, même si le titre de son article, c'est « Negative and Positive Freedom », ça ne concerne pas seulement Berlin. Hein. Ça concerne, c'est comme une distinction qui était déjà là. Et lui, il dit « Ah, récemment, Berlin en a proposé une nouvelle interprétation. » Mes critiques s'appliquent aussi à sa version. Et donc, le premier problème, c'est que la distinction de Berlin empêche de voir qu'il y a une structure commune à toutes les conceptions de la liberté, qu'elles soient positives ou négatives. Or, pour McCallum, cette structure commune, elle est nécessaire à la compréhension de notre usage du langage de la liberté. Selon McCallum, la liberté est une relation triadique entre des agents, des contraintes et des phénomènes. Ça a été rappelé aujourd'hui par Constance. Je ne relirai pas la citation, mais on voit que c'est un agent qui est libre par rapport à des contraintes de faire certaines choses. Donc, en gros, chaque liberté a une composante à la fois, donc une composante négative et une composante positive. Lorsque nous sommes protégés des interférences d'autrui, il y a un contenu positif à cette liberté négative. Cette absence d'interférence met, dans une certaine mesure, certaines actions à notre disposition, sous notre contrôle, plutôt que sous celui des autres. Par ailleurs, pour être maître de sa destinée, pour nous réaliser, il est nécessaire que certains obstacles soient absents. Les interférences d'autrui, notre irrationalité ou la tentation de certains souhaits. Et ça, Berlin aussi, on l'a vu avec Marlène, il le reconnaît à différents moments qu'il y a une composante négative même dans la conception positive, même s'il parle moins de la composante positive dans la conception négative. Donc c'est cette structure commune qui nous permet de reconnaître dans une discussion qu'il est bien question de liberté, que celle-ci soit négative ou positive. Le deuxième problème est une conséquence de l'ignorance de cette structure commune. Il s'agit de la création de deux camps à la composition pour le moins bigarrée. McCallum fait d'abord remarquer, et ça je crois qu'on s'en est rendu compte au fil du colloque, quand on a parlé des conceptions négatives chez les libéraux, même chez les libertariens, on voit que c'est pas très homogène. Hein? Donc, il fait d'abord remarquer qu'il n'est pas si facile de classer les conceptions dans un de ces deux camps. Et il insiste, il dit, ce qui est encore plus problématique, c'est que même des auteurs qui semblent paradigmatiques ne se conforment pas si bien aux caractéristiques de leur camp. Hein, il donne deux exemples. Il affirme que la liberté chez Locke possède des caractéristiques que nous aurions tendance à associer à une conception positive, comme sa référence aux préférences actuelles et à la volonté, ça on trouve ça dans son essai sur l'entendement humain, ou son affirmation que la loi ne limite pas la liberté, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le second traité du gouvernement civil. Il dit, pourquoi ces caractéristiques-là ne font pas de la conception de Locke une conception positive? Là, il se pose la question. De plus, il affirme que les marxistes, il nomme pas de marxistes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve autant chez Marx ses disciples, qui sont évidemment associés à la liberté positive, considèrent que ce qui nous contraint a souvent comme source des institutions qui sont humaines, même lorsqu'il s'agit en définitive de contraintes internes. Et donc ça, pour McCallum, ça les rapproche des conceptions de la liberté négative, parce que c'est des êtres humains qui interviennent de manière à peut-être nous aliéner et donc créer des obstacles qui sont peut-être internes à la réalisation de soi, mais qui, dont la source est externe. Ce qu'on a pu constater dans les deux derniers jours, c'est que il n'est pas très difficile de trouver d'autres exemples. On l'a vu avec Sébastien et Eva hier. Hayek, je pense, peut être ajouté à ces cas problématiques. Car bien qu'il conçoive la liberté comme absence de coercition, ce qui semblerait le classer de manière paradigmatique dans la famille dans le concept de liberté négative, il la définit aussi en termes de possibilité d'agir en suivant son propre plan, de non-soumission à la volonté d'un autre, de maîtriser son destin, en somme. Ça, c'est dans la Constitution de la liberté. De plus, Eric Nelson a publié en 2005 un article intitulé « Liberty, One Concept Too Many », dans lequel il montre que même les philosophes britanniques hegéliens du début du 20e siècle qu'on classe systématiquement comme des défenseurs de la liberté positive, hein, des gens comme T.H. Green ou Bosanquet et tout ça. Donc, je donne l'exemple de T.H. Green. Lui, il parle de liberté comme réalisation, donc pas simplement comme opportunité, si on utilise la distinction de Taylor entre opportunity or exercise concept of freedom. Il parle de réalisation du meilleur de nous-mêmes. Hein, ça semble être le paradigme de la liberté positive. Et pourtant, il la conçoit néanmoins comme l'absence de toute entrave à cette réalisation. Donc, s'il n'y a plus d'obstacles, c'est là qu'on va se réaliser, qu'on va réaliser le meilleur de nous-mêmes. Donc, même lui, et quand il défend ça, il dit, vous voyez, on fait un usage du terme liberté pour parler des contraintes internes, mais ce n'est pas un usage purement métaphorique, parce que c'est en se libérant de ces internes, de ces obstacles internes, donc vraiment un mouvement négatif, qu'on se réalise, qu'on réalise le meilleur de nous-mêmes. Donc même T.H. Green semble, c'est pas aussi évident de quel côté il se trouve. Et pourtant, même quand on parvient à classer plus ou moins correctement les auteurs, les camps ainsi formés rassemblent des conceptions qui sont si différentes que cela rend la distinction pratiquement inutile. Hein? Je suis un peu polémique, mais pratiquement inutile pour la philosophie politique. C'est particulièrement évident pour le concept de la liberté positive qui recouvre des conceptions aussi variées que la liberté stoïcienne, l'autonomie kantienne, la réalisation de soi, la souveraineté populaire, sans oublier les conceptions d'auteurs qui se réclament de la liberté positive, telles que Taylor et sa conception qui est fondée sur les finalités objectivement importantes, ou Chrisman, puis sa conception qui est fondée sur la formation autonome des préférences. Mais fait plus surprenant, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais même pour la liberté négative, on obtient une famille avec bien peu de ressemblances. Après tout, il faut bien admettre que, en plus de Locke et Hayek, il y a aussi Mill, Nozick, Dworkin, Cohen et Carter qui défendent des conceptions de la liberté négative. Or, ces auteurs ont des désaccords fondamentaux à propos des contraintes et des phénomènes de la liberté négative. La pauvreté contraint la liberté pour Cohen, comme on l'a vu plus tôt aujourd'hui, mais pas pour Hayek. Une violation de droit de propriété peut faire l'objet d'une liberté pour Carter, mais pas pour Nozick. La liberté fait référence au soi des individus pour le Locke des essais et pour Mill, mais pas pour le Locke des traités ou Dworkin. Donc, compte tenu de la grande variété de chacun des camps, en quoi cette distinction peut-elle nous aider alors à expliquer en quoi une situation ou une action politique est bonne ou juste? Que peut-on inférer normativement d'une affirmation que les institutions capitalistes, par exemple, produiront plus de liberté négative que les institutions socialistes? Est-ce là une raison pro tanto de préférer le capitalisme au socialisme? Est-ce que la conclusion normative serait différente s'il était question de liberté positive? Et si nous affirmons plutôt que, bien que le capitalisme produira plus de liberté négative, le socialisme produira plus de liberté positive, en quoi sommes-nous avancés? En fait, je pense qu'on ne peut pas sérieusement répondre à ces questions avant de préciser la conception de la liberté qui est utilisée dans ces affirmations. Selon que nous adoptons la conception de Cohen ou celle de Nozick, la conception de Chrisman ou celle des anciens, un peu à la constante, nous tirons des conclusions très différentes, voire diamétralement opposées. Donc, certaines conceptions de la liberté négative sont plus convaincantes et pertinentes pour les tâches de la philosophie politique que certaines conceptions de la liberté positive. Mais l'inverse est aussi vrai. Si une conception est supérieure à toutes les autres, ça ne peut tenir qu'assez peu au fait qu'elle est positive ou négative. Ainsi, on constate qu'en passant outre la structure commune de la liberté, la distinction de Berlin nous empêche de nous concentrer sur ce qui oppose vraiment les différentes conceptions de la liberté, soit le sens à donner à chacune des trois variables de la relation triadique par McCallum, afin de mieux évaluer les forces et les faiblesses de chaque conception. Donc, si nous accordons de la valeur à la liberté, et nous souhaitons donc qu'elle ait un rôle à jouer dans l'évaluation, la prescription et la justification d'institutions ou d'actions, alors, il faut bien reconnaître que la distinction de Berlin constitue au mieux, et je suis encore polémique ici, une distraction inutile. Donc, en réponse aux critiques de McCallum, Carter a suggéré une réinterprétation de la distinction de Berlin qui concède qu'il n'y a qu'un seul concept de la liberté, mais qui maintient que la distinction est tout de même utile en tant qu'elle identifie deux familles de conceptions de la liberté. Donc, c'est une façon de dire, bon, c'est bien vrai, McCallum, il y a quelque chose de commun, il y a une structure commune, mais tout de même, ces conceptions, même si c'est pas des concepts différents, il y a quelque chose qui semble les séparer en deux camps. Et donc, selon Carter, les adeptes de la liberté négative ont tendance à être des héritiers ou défenseurs du libéralisme, alors que les adeptes de la liberté positive se montrent beaucoup plus critiques à l'égard de ce libéralisme. Moi, je trouve que cette réinterprétation, elle est séduisante, prima facie, mais pour l'évaluer, il faut encore identifier les critères qui permettent de distinguer les conceptions des deux familles. Et à ce sujet-là, Carter nous offre deux possibilités. Dans son article de 1996 sur Sinn, il soutient que les conceptions négatives de la liberté ont une interprétation étroite des contraintes, seulement externes et humaines, et une interprétation large des phénomènes, n'importe quelle action. Alors que les conceptions positives de la liberté ont plutôt une interprétation large des contraintes, pas seulement humaine, pas seulement externe, ou une interprétation étroite des phénomènes de la liberté. Faire son devoir, faire ce qui est légal, ce qui est moralement bon, des trucs du genre. C'est un critère qui semble assez plausible, surtout quand on pense aux auteurs paradigmatiques. Mais le problème, c'est que selon ce critère, non seulement Cohen, Van Parys et Sen qui ont une conception large des contraintes, mais aussi Nozick et Dworkin, qui ont une conception étroite des phénomènes de la liberté, doivent être considérés comme des théoriciens de la liberté positive. Donc, alors que Cohen se conçoit effectivement comme un critique socialiste du libéralisme, Van Parys, Sen et Dworkin sont des égalitaristes tout à fait libéraux. Et de plus, le libéralisme de Nozick et des libertariens qui lui ressemblent comme Rothbard est assez difficile à nier. Ce ne sont certainement pas des critiques radicaux du libéralisme. Donc, dans un article plus tardif sur la liberté positive et négative qui est paru dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Carter soutient plutôt que la différence entre les deux familles tourne autour de l'attitude des théoriciens en ce qui concerne les croyances, les souhaits ou les valeurs des individus. Selon lui, les adeptes de la liberté négative ne leur accordent pas d'importance, en accord avec la tradition libérale, jugeant qu'un tel intérêt trahit une disposition à violer l'intégrité ou la dignité des individus. Les adeptes de la liberté positive, au contraire, considèrent que des renseignements sur les croyances, souhaits ou valeurs des individus sont pertinents pour déterminer leur liberté. Ce nouveau critère permet de ramener Dworkin, Nozick et les libertariens de sa trempe dans le giron libéral, mais pas Sen, ni Van Parys. Mais surtout, ce critère fait de Hobbes, Locke, de Lessay, Hume et Mill des théoriciens de la liberté positive et donc des critiques radicaux du libéralisme parce que chacun de ces auteurs associe la liberté à la volonté ou au souhait des individus. Donc, ils accordent une importance à cette volonté ou au souhait. Chez Hobbes, c'est au chapitre 21. Je n'ai pas toutes les citations. Chez Locke, Hume, Mill, il y en a toute une gamme, en fait. Quand on se rend compte que les auteurs fondateurs du libéralisme, ils font souvent une association de la liberté à la volonté. De plus, Kramer, qui considère pourtant que seuls d'autres êtres humains peuvent limiter la liberté, se retrouve lui aussi dans cette catégorie, car il considère que les états psychologiques, soit causés par autrui, peuvent aussi limiter la liberté. Et même Hayek, dont la définition de la coercition fait directement référence aux croyances et plans des individus, devient un théoricien de la liberté positive et critique radicale du libéralisme. Donc, décidément, la famille libérale est bien plus petite qu'on pourrait le penser. Donc, si on accepte tout de même ces classifications, il n'empêche qu'il faut admettre que l'homogénéité de la famille des conceptions de la liberté négative, dont les représentants orthodoxes, hein, ici qui survivent aux deux critères, sont, pour l'essentiel, je pense, Bentham, Berlin, Oppenheim, Steiner et Carter, hein, et je pense qu'on pourrait encore en débattre, hein, c'est pas tout à fait clair. Donc, cette homogénéité qui est gagnée ne se fait que par l'augmentation de l'hétérogénéité de la famille des conceptions de la liberté positive. Donc, c'est un jeu à somme nulle ici, rendant par le fait même la notion de liberté positive encore moins utile qu'elle ne l'était déjà avec la distinction de Berlin. Et pourtant, on ne peut même pas affirmer qu'au moins la notion de liberté négative gagne une totale clarté normative. Parce que Berlin et Carter, par exemple, s'opposent notamment sur la relation entre l'argent et la liberté. Or, compte tenu des nombreux enjeux normatifs cruciaux liés aux impôts et aux droits de propriété, il est tout de même étonnant et décevant que la famille des théoriciens de la liberté négative, même nouvellement épurée, ne puisse s'entendre sur leurs effets sur la distribution de la liberté. Remarquons, par ailleurs, que la liberté comme non-domination de Pettit semble être négative selon les deux critères de Carter. Et donc, si son classement parmi les héritiers et défenseurs du libéralisme peut faire sourire, il faut surtout remarquer que sa présence génère une nouvelle division parmi les membres de la famille à propos de la pertinence pour les questions de liberté du caractère arbitraire des interférences. Donc, en somme, pourquoi ne pas enfin reconnaître que plus que l'appartenance à une de ces deux familles de conception, c'est plutôt les différentes interprétations des contraintes et des phénomènes de la liberté qui rendent une conception plus ou moins pertinente et utile à la philosophie politique. Le concept de McCallum fournit une structure, alors que les diverses conceptions, dites positives ou négatives, que l'on trouve dans la littérature, offrent tout un éventail d'interprétations possibles. Donc, au lieu de se demander s'il faut adopter une conception positive ou négative de la liberté, ou de tenter de déterminer le poids à leur accorder respectivement dans nos théories politiques normatives, je suggère plutôt d'essayer de trouver la meilleure conception de la liberté pour accomplir les tâches de la philosophie politique. Après tout, comme nous pouvons compter sur un concept unique et que nous avons des intuitions linguistiques et des intérêts normatifs qui nous poussent vers la liberté positive et d'autres vers la liberté négative, il semble prometteur de chercher une conception qui saura mieux rendre compte de toutes ces intuitions et mieux servir ses intérêts. Donc, on passe à la deuxième partie. J'ai pas le temps de défendre une toute nouvelle conception de la liberté, mais je veux vous montrer un peu la fertilité de se libérer de ce carcan berlinien. Et donc, je vais essayer de défendre trois éléments qui selon moi, nous permettent de développer une conception de la liberté qui va au-delà du négatif et positif. Et je la qualifie d'hybride parce que, justement, elle intègre des éléments des deux familles. Donc, encore une fois, quelques remarques préliminaires. Ici, donc, quand on cherche une meilleure conception, on utilise le concept de liberté, puis on cherche les meilleures interprétations des agents, contraintes et des phénomènes qui vont être en équilibre à la fois avec nos intuitions linguistiques et les autres théories pertinentes. Et en plus du concept de McCallum, j'utilise la distinction conceptuelle entre les libertés spécifiques et la liberté globale. Donc, la liberté spécifique, ça c'est une distinction qui a été théorisée par Carter. La liberté spécifique, elle concerne un phénomène particulier, hein? Alors que la liberté globale, elle se concentre plutôt sur l'agent. Elle cherche à déterminer si et dans quelle mesure un agent est libre, tout court, sans faire référence à ses libertés spécifiques. Donc, les deux niveaux ne sont pas indépendants. On admet généralement que la liberté globale est une fonction des libertés spécifiques d'un agent. Donc, développer une conception de la liberté globale, ça implique une conception de la liberté spécifique ainsi que l'identification d'une règle de constitution de la liberté globale. Deuxième remarque préliminaire, une des théories dont je postule la pertinence pour l'élaboration d'une telle conception est celle qui affirme que la liberté tire sa valeur de sa contribution à la réalisation des conceptions de la vie bonne, compris en un sens large, auxquelles adhèrent les individus. Donc, même si j'ai des réserves sur la possibilité d'une valeur inconditionnelle ou intrinsèque de la liberté, ce choix est seulement méthodologique. Selon moi, ce postulat d'une valeur instrumentale pour les plans de vie des gens me semble poser moins de risques d'arriver à une conception de la liberté qui ne possédera pas la valeur qu'on lui associe par ailleurs. Ce choix méthodologique a deux conséquences. Premièrement, une bonne conception de la liberté doit être compatible avec le fait que, toute chose étant égale par ailleurs, l'augmentation de notre liberté sert toujours la réalisation de nos plans de vie. Et deux, parmi les conceptions qui respectent assez bien le cadre conceptuel, nos intuitions et les autres théories pertinentes, il faut choisir celle qui maximise la valeur qu'a la liberté comme moyen pour les individus de réaliser leur conception du bien. Donc l'objectif est de trouver une conception qui rend le mieux compte de cette valeur de la liberté tout en respectant le cadre conceptuel de la liberté, la plupart de nos intuitions linguistiques ainsi que les autres théories pertinentes pour l'étude de la liberté. Donc, si je veux vous offrir trois pistes. Les deux premières concernent la liberté spécifique et la troisième concerne la règle de constitution de la liberté globale. Première piste, c'est celle qui, je pense, qui nous amène par-delà le négatif. Et ce que cela veut dire, c'est que je pense qu'il faut adopter une interprétation large des contraintes sur la liberté spécifique. Il n'y a pas que les autres humains qui contraignent la liberté individuelle. La source de la contrainte n'est en fait pas pertinente. Tout ce qui produit l'effet contraignant constitue par le fait même une contrainte de la liberté. Ici, je vais vous présenter quelques raisons à l'appui de cette thèse. Premièrement, nos intuitions linguistiques ne soutiennent pas la nature exclusivement humaine des contraintes. Il ne semble pas particulièrement étrange d'affirmer qu'une personne paraplégique n'a pas la liberté de marcher ou qu'une personne dépendante à l'héroïne n'a pas la liberté de mener une vie normale. Et même si, des fois, l'usage de la liberté en relation avec des contraintes naturelles peut sembler inhabituel, il faut reconnaître que même en limitant les contraintes aux sources humaines, des usages contre-intuitifs sont possibles. Oppenheim, par exemple, affirme que nous étions libres de voyager par les airs avant que la technologie le rende possible. C'est quand même assez contre-intuitif. Hayek affirme qu'une personne tombée par accident dans une crevasse dont elle n'a pas la capacité de sortir, est néanmoins libre de le faire. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Donc, même s'il s'avère que nos intuitions linguistiques ne favorisent pas totalement la thèse de la nature d'une interprétation large des contraintes, il faut admettre qu'elles ne favorisent pas totalement la thèse adverse non plus. Deuxième argument, des fois, on invoque la place spéciale des relations sociales en philosophie politique pour justifier notre intérêt sur les interférences humaines. Hein, ça, c'est un argument qui est présenté par Kramer Steiner. Mais en fait, ça ne fait que déplacer le problème, parce qu'après ça, il faut justifier pourquoi ces relations méritent une telle place. Hein? Or, Kramer, il reconnaît lui-même que cette tâche est plus ardue que prévu, parce que des obstacles naturels peuvent notamment être éliminés ou susciter du ressentiment tout autant que les obstacles humains. Donc, ça le force à affirmer que, selon lui, il pense qu'il n'y a pas vraiment de moyen non circulaire de défendre l'exclusion des obstacles non humains de la catégorie des contraintes de la liberté. Donc, on retombe donc sur un conflit d'intuition linguistique. Mais même si les relations sociales avaient une telle importance, et voilà ma troisième raison, Cohen et Van Parijs ont montré que puisque les interférences d'autrui sont intimement liées à nos capacités, il serait arbitraire de limiter les contraintes aux obstacles humains. Par exemple, pour éviter que des policiers interfèrent avec ma conduite automobile, je dois avoir un permis de conduire, ce qui requiert une démonstration de ma capacité à conduire tout en respectant le code de la route. Donc, on voit que pour éviter une interférence physique, j'ai besoin d'une certaine capacité. Et de la même façon, si une personne veut me voler et me menace physiquement, elle réduira moins ma liberté si j'ai la capacité de la vaincre physiquement que si j'en suis incapable. Donc, les capacités personnelles sont intégrales à l'effet qu'ont les interférences d'autrui sur notre liberté. Donc, la quatrième raison, si ce qui nous intéresse, c'est la valeur que possède la liberté en tant que moyen pour les individus de réaliser leur plan de vie, alors il faut admettre que c'est l'effet que cause un obstacle qui compte et non la nature de sa source. Par exemple, s'il est fait d'un obstacle et qu'il m'est impossible, physiquement impossible de sortir d'une crevasse, pour reprendre l'exemple de Hayek, il faut reconnaître que cet obstacle m'enlève la liberté de sortir de cette crevasse, que cette impossibilité soit causée par autrui, une négligence de ma part, une catastrophe naturelle, une incapacité physique ou mon ignorance. Ça a assez peu d'importance. Autrement, nous serions obligés d'admettre que la liberté associée à cette action, qu'il m'est néanmoins impossible d'accomplir, est tout à fait inutile pour la réalisation de mes plans. Ce qui, selon moi, viole la valeur accordée à la liberté. Deuxième piste, par-delà le positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne faut pas limiter les objets de la liberté à ce qui est moral, légal ou souhaité. Tout phénomène peut faire l'objet d'une liberté spécifique. Encore une fois, on a des arguments linguistiques. Le contraire a des conséquences fâcheuses. Dans la mesure où il y a des actes immoraux, illégaux ou indésirés qui sont commis, cela nous force à affirmer, donc si on veut réduire les phénomènes de la liberté, on doit affirmer que certaines personnes posent des gestes qu'ils ne sont pas libres de poser, ce qui est étrange. Si on réduit les phénomènes de la liberté à ceux qui possèdent une valeur objective, alors la valeur de la liberté comme moyen va dépendre du degré de concordance entre son plan de vie et l'ordre objectif des valeurs. Plus son plan s'en éloignera, plus l'individu sera indifférent, voire réfractaire à l'augmentation de sa liberté. Et ça, c'est aussi en tension avec la valeur de la liberté. Le troisième problème, c'est que si on restreint les phénomènes à ceux qui ont de la valeur subjective, on risque le problème de l'esclave contenté, qui est assez bien connu, j'en parlais pas plus. Donc, le principal problème avec ces approches, qui sont souvent associées à des conceptions positives, c'est qu'elles ne perçoivent pas la distinction entre la valeur d'une liberté et la valeur d'un phénomène. On peut, par exemple, accorder de la valeur à une liberté, même si on n'accorde pas de la valeur au phénomène, pour éviter de subir une contrainte, pour protéger l'autonomie de nos décisions, ou par prudence face à notre incertitude quant aux valeurs futures. Donc, il vaut mieux adopter une approche inclusive, quitte à procéder à leur évaluation lors de la constitution de la liberté globale, là où j'en arrive. Donc, une fois que nous avons une conception de la liberté spécifique, il faut identifier la fonction qui va permettre de constituer la liberté globale. Et ici, je propose de faire intervenir les préférences individuelles. Donc, nous sommes libres dans la mesure où nous avons les libertés spécifiques que nous préférons. Et ici, j'ai trois arguments. Je vais essayer d'être bref parce que c'est presque terminé. D'abord, je juge qu'il faut éviter les approches évaluatives objectives à la Kramer pour des raisons qui sont similaires au rejet de la réduction des phénomènes de la liberté à ceux qui ont de la valeur objective. C'est-à-dire qu'il y a un perfectionnisme inhérent à ce genre d'approche. Et si on valorise la liberté comme moyen pour réaliser des fins, il y a une tension ici. Deuxième problème, ça c'est qu'il faut aussi éviter l'approche purement empirique. Parce qu'elle suppose une équivalence entre les libertés spécifiques. Et cette équivalence, elle est problématique. Elle nous mène à préférer strictement la quantité des libertés spécifiques au détriment potentiel de leur contribution à la réalisation des plans de vie individuels. Donc, la troisième raison, c'est que le rejet de ces deux approches, l'approche empirique ou l'approche évaluative objective, nous pousse naturellement vers une approche évaluative, mais subjective. Je pense ici, donc, évidemment, c'est pas sans causer des difficultés, mais je pense que, en insistant pour que les préférences soient authentiques, et je sais que c'est un peu un panier de crabe d'utiliser ce critère-là, et on pourra en discuter peut-être dans la période de questions ou après, et en s'assurant que ces préférences portent sur des ensembles de libertés spécifiques et pas sur une liberté spécifique ou des phénomènes, je pense que cette approche nous permet de respecter la valeur non spécifique de la liberté globale, tout en évitant les problèmes du type de l'esclave contenté. Donc, en conclusion, j'ai voulu montrer que la distinction de Berlin était un obstacle à une réflexion productive sur la liberté en philosophie politique, et qu'en s'en débarrassant, nous nous retrouvions dans une meilleure position pour élaborer une conception de la liberté plus apte à remplir le rôle qu'on souhaite lui réserver en philosophie politique. Je pense que nous avons de bonnes raisons de croire qu'une telle conception ne réduira pas les contraintes aux obstacles humains, pas les phénomènes à ceux qui ont de la valeur objective ou subjective, mais qui fera intervenir les préférences individuelles dans la constitution de la liberté globale. Les arguments présentés sont bien sûr encore embryonnaires, mais j'espère avoir réussi au moins à semer en vous à la fois un doute et un espoir. Merci encore et félicitations pour le beau colloque.
Merci François. Donc on va avoir 9 minutes de discussion et puis ensuite je laisserai la parole à Christian. Donc Marlène, Speranza, après.
Moi c'est une question très rapide et en fait assez périphérique par rapport à ton propos et à ton objectif et même par rapport finalement peut-être à la tâche qui nous a occupé. C'est à propos du point 1.3 sur la tâche de la philosophie politique.
Oui.
Que je trouve très restreinte.
Oui.
En fait. Et alors tu dis donc évaluation, prescription, explication. Alors qu'à moins que tu aies un concept très large d'évaluation qui implique description, il me semble qu'il y a une tâche ici qui manque, qui est la politique. C'est qu'est-ce qui appartient en politique ou pas? Parce que quand tu dis évaluation, prescription, explication, tu supposes qu'on sait déjà ce qui va relever de ce type de jugement, d'explication, et qu'on sait ce qui tombe sous la réflexion politique, alors que toute la question, me semble-t-il, de savoir qu'est-ce qui est politique ou pas. C'est-à-dire, et là, il y a une question de description. Il me semble, par exemple, qu'aujourd'hui, si on considère que le concept d'idéologie est encore pertinent, c'est une idéologie qui ne fonctionne plus par prescription, mais par description, de certains modes de vie, etc. Et que là-dessus, il y a... Je prends un exemple, on aurait dans les années 60, qu'est-ce qui est politique, le personnel est politique, c'est peut-être ce type de revendication. Mais aujourd'hui, par exemple, sur la souffrance au travail, est-ce que c'est politique ou pas? Ou est-ce que ça relève du privé? Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, je pense, aujourd'hui, qui se jouent à un niveau descriptif. Voilà. Et pas purement normatif, évaluatif, et ni non plus explicatif. Qu'est-ce qu'un objet légitime de réflexion politique?
Oui.
Avant c'était...
Moi, j'ai l'impression que ces discussions, souvent, sont crypto-normatives. Dans le sens où elles se présentent comme un discours normatif sur « ceci est politique, alors on doit en faire quelque chose », mais ce qu'elles contiennent, c'est des nouveaux critères d'évaluation soit des politiques publiques ou des institutions. Si on dit que le privé est politique, c'est une façon de critiquer la façon dont nos systèmes traitent les intérêts.
Oui, ça va impliquer un élargissement des critères ou même une transformation des critères.
Mais jusqu'à un certain point, je pense que je peux concéder que dans toute entreprise, soit d'évaluation ou de prescription, ça suppose une certaine définition du domaine, mais je pense que dans ce cas-ci, la définition du domaine, elle va être moins un ouvrage de philosophie politique qu'une stipulation. Voici ce que je considère être politique et maintenant, quels sont les critères qui sont pertinents pour l'évaluation de cette situation. Donc,
oui, ça veut dire, je pensais, en fait, ça impliquerait l'idée que la philosophie politique implique une prise de parti, y compris dans ce qu'on va considérer comme politique ou non. Et c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de violence ou justement de domination dans la privation d'un langage politique pour décrire certains phénomènes comme tels. Et comme sans cela,
oui.
Mais c'est carrément une conception à part entière de la philosophie politique. Plutôt que se trouver trouver des accords raisonnables, trouver le langage qui permette de faire entrer tel problème dans la discussion.
Oui, mais c'est clair, bon, parce que je pense qu'il y a peut-être deux sens de description ici qui sont en jeu. Le premier, c'est plus la délimitation du domaine. Qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Et ensuite, il y a un élément descriptif qui est quelle est la distribution factuelle de choses auxquelles on accorde l'importance. Parce qu'évidemment, ça, c'est probablement présupposé pour des questions de prescription. Bon, dans quelle situation on est, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je pense que dans ce cas-là, je pense que tu as raison, il doit y avoir une part de description qui est en fait très liée à l'évaluation.
Hein? Oui.
Ouais. Donc, je vais penser dans quelle mesure peut-être ça mériterait une quatrième tâche. Mais bon, on s'entend
c'est
que...
C'est en fait au début de l'ouvrage d'Emmanuel Renaud sur l'expérience de l'injustice qui pose bien ce problème-là.
D'accord. Merci.
Speranza.
Alors, merci beaucoup pour cette communication. label humoristique qui m'incite en fait à faire.
Ouais, j'attends l'enclume.
Voilà, c'était une suggestion.
Ouais.
La première, c'est concernant le rôle de définition. J'ai pas l'impression que les gens, quand ils définissent quelque chose, ils expliquent des évaluations. Et je pense que c'est mauvais de faire ça. C'est peut-être si on veut essayer de comprendre les conceptions actuelles ou les usages du mot dans certaines théories. Et sinon, ça n'a pas de sens. Tu vois, quand on définit l'esclavage, on le définit. Après, si on veut savoir comment les gens théorisent aujourd'hui, on élargit le concept d'esclavage à des situations, par exemple, des contrats de travail qui sont un peu précaires. Ou des... Oui, on peut expliquer... On peut dire ce que ces gens-là entendent par esclavage dans ce contexte-là, en précisant qu'ils ont élargi le terme et que le terme, il veut dire faire référence à une institution bien précise qui est beaucoup plus grave que ce qu'on appelle aujourd'hui esclavage. Et je pense en fait qu'il s'agit de la même manière, de la même chose sur la même question sur la liberté. Et c'est toi qui m'as suggéré ça, mais je suis allée j'ai un dictionnaire que j'ai. Je cherchais d'abord le mot bigarré, ensuite je suis allée chercher le mot liberté. Et en fait, ce que les philosophes disent être la liberté positive ne se trouve pas dans le dictionnaire. Et ma suggestion, c'est est-ce qu'on ne devrait peut-être, au lieu de renoncer à la distinction, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas dire qu'il n'y a pas deux concepts de liberté, il y en a un seul, et que bon, ceux qui sont appelés du camp de la liberté négative, en fait, ils ont raison. Et qu'après, il y a toutes sortes de distinctions. Certains considèrent contrainte telle chose, d'autres élargissent le concept de contrainte. Et on peut également analyser la manière dont chacun et pourquoi entend contrainte de coercition de façon différente. Ça, c'était la suggestion déjà. Et la deuxième question, la suggestion, donc, c'est de dire que, en fait, on ne le fait plus, c'est un peu bizarre, mais. Depuis le cercle de Vienne, on disait que certains philosophes utilisent des mots de manière aberrante. On peut dire pour la liberté positive qu'elle n'existe pas. C'est une. Tu m'invites à être provocatrice autant que toi.
Tu n'avais certainement pas besoin de mes incitations. Je suis sûre que tu es capable de provoquer sans moi.
La deuxième question, c'était pour. Sur la question de l'empirisme, de l'idée de liberté spécifique, tu dis que si on doit renoncer à la conception empiriste de la liberté, parce qu'elle nous amène à préférer les quantités plutôt que certaines libertés spécifiques qui sont plus importantes que d'autres, c'est ça?
Non.
Ah, pardon.
Est-ce que tu as d'autres questions?
Non, parce que c'est quelque chose de proche. Je dirais qu'en fait, il peut juste donner des poids différents à des types de poids différents. Et puis, tu fais toujours ton agrégation, ton émission. Et puis, ça résout. Ouais. Il ne faut pas ajouter l'empirisme.
Alors, une réponse très courte en 1 minute 30 pour une question massive.
D'accord. Pour la critique, je n'ai pas dit que le rôle des définitions, c'est d'expliquer des évaluations. Deuxième, pour la suggestion, je pense que dans la mesure où notre usage des mots liberté, que le concept de McCallum permet de rendre compte des usages qui sont associés à la conception positive et que nous avons des intuitions qui sont quand même, même si dans le dictionnaire elles ne sont pas là, qui sont quand même liées à la conception positive, je pense que ce serait une victoire, un triomphe sans gloire que de dire en fait il n'y a qu'un seul concept, c'est le concept négatif, et tout ce qui était positif, ça existe, ça a peut-être la valeur, on ne sait pas comment ça s'appelle, mais c'est autre chose. Alors que moi, je pense qu'il y a moyen vraiment de synthétiser, il y a une structure commune, et il y a des intuitions qui vont un peu dans les deux sens, et il y a moyen de les synthétiser. Sur l'empirisme, je concède tout à fait. Ce que je voulais dire quand j'ai parlé de l'approche empirique, c'est l'approche d'agrégation des libertés spécifiques, purement empirique. Donc moi, ce que je propose, c'est une conception hybride où on a une dimension purement empirique des libertés spécifiques qui, après ça, est multipliée, mais je ne l'ai pas présenté, multipliée par un élément qui tient compte de la satisfaction des préférences authentiques sur les ensembles de libertés spécifiques. Donc, je suis d'accord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et pour revenir sur ta première critique, parce que j'ai été un peu... j'ai fait une blague, c'est que les définitions, c'est donc avec les définitions, c'est pas tant qu'on veut avoir quelque chose qui va expliquer, c'est qu'on veut avoir quelque chose qui va être utile pour expliquer. Donc, si on a une définition qui nous permet pas de justifier ou d'expliquer ou de prescrire, c'est pas une bonne définition. Hein? Ça veut pas. Et donc ça, c'est une approche, je pense, qui est celle de Carter. Et je veux pas entrer dans cette distinction entre value freeness, value neutrality, value independence, mais il y a moyen de reconnaître que notre définition de la liberté va jouer un rôle dans un discours normatif sans pour autant faire de notre conception une conception qui est évaluative. J'ai essayé d'être bref, mais il y a quand même trois.
Merci.